RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Football show. Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Bien sûr, nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport News dans l'After, l'émission qui est du tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et ils sont là comme tous les lundis, Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel.
Daniel Riolo est là, bonsoir Daniel.
Salut les amis.
Évidemment les avis des uns et des autres ce soir, les gars, avis de Pierre concernant le mercato du PSG, avis de Daniel concernant la com de l'OM, mon avis concernant le VAR et son utilisation, le mercato, les drôles de l'âme et un peu de handball. Pourquoi ? Parce que l'équipe de France vient de battre la Corée au Mondial, la Corée unifiée, et Maureen Lehoux est avec Quentin Mahé, artisan, l'un des artisans de cette victoire. Maureen, bonsoir.
Bonsoir, il est même l'homme du match, Quentin Mahé. Victoire, mais dans la douleur, ça a été compliqué ce soir. Comment vous l'expliquez, notamment cette première période ?
Bon, dur à expliquer. Après, on a agi contre une équipe de Corée qui défendait. C'était un peu, c'est pas une équipe qu'on rencontre tous les jours, on va dire. Donc c'est pour ça que on a pêché à la finition et voilà. C'était un effet de boule de neige. Il y en a un qui loupait, l'autre qui limitait. Et, voilà, en défense, dans notre défense, eux, leur attaque, tout leur réussissait. Et puis ça reflète, voilà, alors la première mi-temps et le score.
Il n'y a pas eu un peu de suffisance, entre guillemets? C'est plus de la surprise à vous écouter, d'avoir du mal à comprendre cette équipe coréenne qui tentait et presque réussissait tout ce soir?
Non, avec tout le respect qu'on a, c'est pas une surprise. On les a vus évoluer sur les deux premiers matchs. On les respectait. Je pense qu'à la fin, voilà, avec les 11 buts d'écart qu'il y a, on les a respectés, mais on a commencé peut-être un peu trop tard, justement, à mettre la machine en route.
24 heures seulement avant le gros choc de ce groupe face à l'Allemagne, qui a fait match nul un peu plus tôt dans la soirée face à la Russie. C'est le match à pas rater pour s'assurer le tour principal.
Écoutez, ouais, ce sont pour l'instant des conditions qui nous sont favorables. Maintenant, il faut vraiment voilà, tout y mettre, comme vous dites, 24 heures après, mais pour eux c'est la même chose. Donc on va essayer vraiment d'y mettre tout notre cœur, d'y mettre toute notre envie pour essayer d'entamer, de finir cette phase de groupe d'une meilleure manière et de gagner le plus de points possible.
Merci beaucoup. Merci. Quentin Mahé, un des artisans effectivement de la victoire de l'équipe de France ce soir face à la Corée unifiée.
Merci Maureen. La France, voilà, qui continue son mondial, et demain ce sera donc le choc France-Allemagne, ce sera sur RMC, vous l'avez compris, évidemment. Les gars, j'ai quelques annonces à vous faire, tout de même avant qu'on démarre. Oui, parce que l'After Academy continue. Nous sommes lundi, jusqu'à dimanche, vous pouvez envoyer vos vidéos, vous pouvez le faire en dernière minute, hein, vous en faites pas, c'est pas parce que votre vidéo arrive samedi que vous serez moins traité que les autres.
Je voulais juste rajouter un petit truc, Gilbert, que dans le jingle, on n'entend pas mon nom, mais... Non, pas du tout. Non, je voulais juste préciser aux auditeurs que je serai là aussi. À mon avis, c'est important.
Donc, t'es un peu vexé quand même.
Non, pas du tout. Non, c'est plus pour les auditeurs. Ils seront pas juste avec toi, Daniel, Jérôme Rotel et Nicolas Villas.
Ce qu'on appelle une promo, quoi. Tu vois, une petite annonce qui dit voilà, l'After Academy, c'est super. Vous pourrez débattre.
Le gars qui gagne, il sera avec
vous. Vous serez avec Daniel Riolo, Gilbert Brébois, Jérôme Rotel, Nicolas Villas.
Non, mais là, je comprends Pierre. On peut pas oublier des gens de l'équipe. On peut pas.
Ça me paraît bon.
Mais
je suis pas vexé. C'est plus pour informer l'auditeur. Non,
même si tu as l'habitude dans ta carrière d'avoir des rôles obscurs, le 6 c'est souvent
le porteur d'eau, le travailleur de l'ombre.
Porteur d'eau. Moi, je suis pour la mise en valeur du porteur d'eau. J'entends tout si l'eau est bonne.
Ah, ça, hein. Tu le sais. demande à Nicolas Villas le nombre de cafés que tu as apporté.
Coach Courbis, passe au 6, passe saucisse.
Oh la vache, ouais, mais
c'est le football,
c'est même pas mon époque, c'est vraiment le début de Roland Courbis, quoi.
Passe au 6, passe au 6.
Ah ouais, parce que le 6 à l'époque, c'était un deuxième stopper. Ah
bah oui. C'est pas joué au foot, c'est le mec que tu collais au cul du 10.
Exactement. Sur tout le terrain.
Est-ce que jeune, t'as connu l'époque où vraiment on te disait tu colles au cul du 10?
Eh ben oui.
En fait, du mec qui en
Je vais te dire, il y avait deux joueurs sur le terrain, parfois trois, mais il y avait deux joueurs, surtout en région parisienne, dans la DH parisienne. Moi, je jouais à Saint-Olomone. Hein? t'avais le stopper qui se collait le numéro 9.
Au cul du 9.
Voilà, au cul du 9. Ouais. Et le numéro 6, effectivement. Mais en plus, t'avais vraiment le numéro 6 derrière le dos et le numéro 4 pour le stopper qui collait au cul du 10. Et alors, des fois, ça donnait des trucs, mais géniaux. Parce que ces deux joueurs-là, se retrouvaient des fois à droite.
Mais tu crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas dans les catégories amateurs? Non, il n'y a plus ce genre de truc-là?
Non, je peux même te dire, voilà, moi, mon fiston qui a 12 ans, voilà, ils apprennent déjà à défendre ensemble, mais en zone, etc. Ouais, non, ça n'existe plus. Heureusement.
Alors,
c'est drôle, c'est un petit côté rigolo. Oui,
des fois, c'était drôle, ouais.
Je vous expliquerai plus tard pourquoi Roland dit ça, passe au 6, parce que c'est dans certains cas très particuliers tout de même. Bon, pour revenir sur l'After Academy, vous vous inscrivez sur rmc.fr. Tout est expliqué, c'est très simple. Tout ça pourquoi? Quel est le but? C'est de faire partie de l'équipe de l'After. Donc, si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à dimanche pour le faire. Ensuite, il y aura une sélection et il n'en restera à la fin plus qu'un. Et puis, on a autre chose ce soir. J'ai le jeu de la rentrée. Bah ouais, c'est la rentrée. Depuis quelques jours, et en fait, on a encore plein de cadeaux. On n'a pas tout éclusé à Noël.
Et puis pour rentrer, faut qu'on ait vacances pour qu'il y ait
donc toute cette année, on a encore plein de cadeaux. On a les PS4, des télé, des casques Bluetooth. On a même des iPhones.
Ah, c'est en France, c'est ce qui restait dans les armoires, en gros.
Et des iPhones quand même, ils étaient bien planqués. Donc pour démarrer 2019,
tu dis iPhone, toi, Gilbert.
Tu dis
iPhone.
J'ai dit iPhone. C'est quoi la différence?
Et sans déconner, il y a des iPhones.
Je sais pas. Ça m'a choqué.
On fait gagner des iPhones, mais c'est la classe.
Ouais, c'est beau.
Donc pour tenter votre chance, ça tombe ce soir. Hein. On aura le gagnant du jour à la fin de l'émission. Vous envoyez RMC au 73216 par SMS. Vous envoyez donc, je le répète, RMC par SMS au 73216. N'hésitez pas. Le vainqueur sera avec nous. Alors, est-ce que ce sera une télé, une enceinte, une PS4? On verra tout à l'heure. Tentez votre chance. On attend Didier Dinard, le coach des Bleus, hein, au hand. Et ensuite, on démarrera nos avis. Maureen nous signale dès qu'il est là. Hein, Maureen, tu nous appelles, bien sûr. Alors, il y a des directs.
Avec Didier Dinard, tu pourras faire un peu le mec qui se la raconte. Premières campagnes.
Malheureusement,
je
ne peux pas lui parler parce que c'est Maureen qui lui parle.
Donc, ça serait bien que tu nous fasses un peu Didier Dinard, le coup du mec avec qui t'as démarré.
Tu sais que Didier Dinard, joueur, c'était
t'as démarré en commentant le hand, Gilbert.
Non, mais il les a beaucoup suivis. Il les a beaucoup suivis.
Ah, puis t'as dû t'éclater.
Moi, j'adore les frères Gilles.
Il les a vus grandir.
Bertrand et Guillaume Gilles.
Non, mais c'est des années. Des années.
Et Daniel Narcisse, génial. Ah, c'est des mecs géniaux. Greg Anctil, génial.
Ah, mais je te crois sur parole parce que ça. C'est...
Philippe Gardant. Oh,
mais Gardant. Ça c'est bon avant ça.
Ah, mais Philippe Gardant.
C'est toi, Philippe Gardant.
Philippe Gardant, c'est. Ouais,
c'était général.
Mon phare. Ouais. Entraîne à Toulouse aujourd'hui. Alors, on a des directs, les gars, ce soir. On a notamment un match de Ligue 2 qui est pas mal entre Red Star et Lens. Oui, on suit ça avec Jordan Olivier. Salut Jordan.
Salut Gilbert, salut à tous. Effectivement, c'est pas mal. 19 minutes de jeu en seconde période. 1-0 pour Red Star, messieurs.
Ouais,
c'est la surprise.
Non, pas du tout. J'ai l'impression que vous alliez annoncer un 2-2 ou un 3-2.
C'est une surprise. C'est une surprise puisque le Red Star est dernier au classement et grâce à cette victoire, pourrait remonter à 19e place. Un espoir donc de maintien qui se dessine pour le Red Star qui a ouvert le score à la première minute de jeu par l'intermédiaire d'Oussama Abdel Djellil et un premier changement qui a été effectué. C'est Nicolas Douchez, l'ancien parisien et ancien Lensois, qui est sorti sur blessure. Il a laissé sa place à Sébastien Reynaud.
Qu'est-ce qui lui arrive à Doudouche?
Ah bah il s'est blessé en contact avec Greg John Kay.
Rien de grave.
C'est difficile à dire de là où on est, mais en tout cas suffisamment grave pour qu'il cède sa place à Reynaud. On demandera au coach du Red Star à l'issue de la rencontre si c'est pas trop grave. Effectivement, 20 minutes de jeu en seconde période, 1-0 pour le Red Star.
Ah, c'est vrai que c'est à Beauvais le match au plus.
Et c'est à Beauvais.
Tiens, Didier Dinard est arrivé avec Maureen Lehoux. Maureen, au championnat du monde de hand.
Il est là le sélectionneur français Didier. Une victoire, mais il n'y a pas eu la manière ce soir. Ça a été très compliqué. On vous a senti même agacé, notamment en première période, sur la prestation de votre équipe.
Oui, bon, c'est vrai que pour avoir été joueur, comme je le dis, c'est que on sait qu'ils étaient peut-être déjà projetés sur cette fameuse rencontre de demain face à l'Allemagne. Et donc, ça peut produire ce genre de prestation. On peut même voir que l'Allemagne a fait match nul face à cette équipe de Russie, en principe jouant à domicile, comme quoi le tournoi est bien relevé. On savait que ces Coréens allaient avoir beaucoup d'engagement. Ils ont été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais nous, étant un cran en dessous, on a été en difficulté, mais l'équipe en deuxième partie a mieux réagi, et donc on a pu faire une deuxième partie plus aboutie.
C'est pas un peu de suffisance de votre équipe? C'est la tête à l'Allemagne, vraiment, c'est comme ça que vous le percevez?
Oui, je pensais pas de la suffisance, parce que je pense pas qu'il y a des joueurs qui trichent, les joueurs ne trichent pas, donc ils ont vraiment tous à cœur de faire de bonnes prestations, mais il y a des jours sans, et je pense que les rotations sont faites pour ça, et l'équipe qui a pris le relais en deuxième partie a fait une très belle prestation.
Vous avez pu faire tourner, c'est très important quand on sait qu'il y a ce choc déjà dans 24 heures face à l'Allemagne, qui pourrait déterminer la place de leader?
Oui, ça pourra déterminer la place de leader, mais pour autant, aujourd'hui, l'Allemagne a fait match nul, certes, mais on pourrait se retrouver dans une situation inversée en perdant et ayant seulement un match nul. Donc aujourd'hui, on sait que tous les matchs sont importants, tous les points sont importants, et j'espère que ça va basculer en notre faveur demain.
Didier, est-ce qu'on peut voir un Nicolas Karabatic demain sur le terrain à Berlin?
Ben, comme je vous dis, c'est que la nuit porte conseil, et puis on verra si Nicolas est inscrit à 9h demain matin.
Petit indice, non? Il va bien, il s'est entraîné.
Nicolas s'est entraîné, tout va bien. Et je pense qu'il mange bien. Et on l'a pesé, donc il est très beau, donc tout va bien.
Merci beaucoup, Didier. Encore un peu de suspense pour savoir si on verra demain Nicolas Karabatic sur le terrain ici à Berlin pour ces championnats du monde.
Merci Maureen, à demain. Alors, Red Star.
Il est pas encore joué, peut-être, là?
Demain. Non, on l'appelle en guest star.
D'accord.
Donc le Red Star mène 1-0 face à Lens. Je vous signale qu'il y a également un match en Angleterre ce soir pour City qui joue face à Wolverhampton. Et bien sûr, le score 2-0 pour City après 54 minutes face à Wolverhampton. Voilà. Et puis un petit match de basket, juste le score entre Gravelines et Le Portel, derby du Schnorr.
Exactement. Bonsoir les gars. 78-69 plus 9 pour Gravelines. C'est la Leaders Cup que visent les Gravelinois pour Le Portel, c'est le maintien. Il reste 5 minutes et 31 secondes dans le dernier quart.
À tout à l'heure. Allez, on enchaîne tout de suite, nous, avec le premier avis du soir, messieurs, dames, celui de Pierre Ducrot. Eh oui, Pierre, ce soir, veut vous parler de quoi? Du mercato. Attendez, vous croyez quoi? Le mec, il pense qu'il y a ça toute la journée.
Bah, il est dedans.
Tout le monde est un peu plus vulgaire. Je crois que c'est à cause de Pierre Ducrot, c'est le pire, que j'aime beaucoup en tant que commentateur. Et au lieu de dire qu'on s'en mord les machins, on peut se dire qu'on s'en mord les doigts.
Mais moi, si je suis coach de Lyon, là, aujourd'hui, je me bouffe les... Ah oui, parce que c'est pas pareil.
Excellent,
c'est
jingle.
Pas pareil de se mordre et de se bouffer.
Paul.
Bon, t'as rentré un peu d'oseille là.
Ça serait bien que les auditeurs nous rappellent pour savoir si j'ai un peu corrigé le tir quand même.
Rectifier
le tir. Bon, Pierre, le business, ça roule ou pas là?
Non.
T'es agent quand même là.
Oui, non, mais le mercato d'hiver, il est.
Une signature là.
Le mercato d'hiver, honnêtement, mais tu le vois.
On est le 15 janvier, t'as pas encore rentré d'oseille.
Tu le vois le mercato d'hiver. Alors ça, il faut être suffisamment doué pour en rentrer suffisamment l'été et attendre l'été prochain.
Non, 14 janvier précisément, pas 15.
Oui, 14.
Bon.
Non, mais tu le vois de manière générale. Souvent, ce mercato-là s'accélère vraiment, vraiment sur la fin, encore plus que celui d'été.
Alors ça, avant que tu fasses ton avis, c'est quelque chose qui quand même, comment dire, me gêne un petit peu, parce que c'est le mercato, l'expression consacrée veut qu'on appelle ça un mercato d'ajustement.
Ouais.
Normalement, tu l'as préparé un petit peu avant. Au moins en décembre, tu commences à te dire bon, il y a eu des petits soucis, tout ça.
Même avant. Ouais.
Vu que t'as une deuxième partie de saison à faire, le faire les mecs fin janvier, bah c'est un peu tard quand même. Le gars doit rentrer dans l'équipe.
C'est exactement
déjà il est en cours de saison. Si tu dois faire signer des mecs au mercato d'hiver, fais-le dans la première semaine de janvier.
Mais
tu crois pas?
Tu sais ce qui se passe, Daniel, c'est que les bons coups que tu peux faire au mercato d'hiver, ce sont des joueurs qui en général jouent dans leur club. Et qu'il est difficile de faire sortir, tout simplement.
Oui, ça d'accord.
C'est ça le problème, et c'est que ça va au bout à chaque fois, et c'est une fois le dos au mur, qu'il y a des décisions qui sont prises.
Fais en sorte.
Ça fait partie de mon avis de
trancher, tu vas voir. Le plus vite possible.
Ouais, sauf que c'est pas toujours possible.
Ben, je sais, mais
parce que il y a aussi quelque chose, c'est que sur les mercatos d'hiver encore plus courts que celui d'été, les clubs qui se font prendre un joueur ont très peur de rester sans rien derrière, et donc du coup ne veulent jamais lâcher avant de prendre, et ça bloque tout. Et
raison de plus pour que ça s'accélère à la limite des deux côtés.
Ouais, mais dans l'idéal,
justement, j'essaierai de le faire très vite pour que le mec soit tout de suite dedans.
Si t'es dirigeant, t'essayes très vite d'avoir ce qu'il te faut. Mais sauf que très souvent, il faudrait que tu lâches aussi et que tu veux pas lâcher avant, quoi.
En tout cas, je pense que t'en parleras dans ton truc et je fais une petite saucisse. Je trouve que le 14 janvier, je n'en fais pas une saucisse, donc je trouve que le PSG tarde à faire ce qu'il doit faire.
Et ben, c'est exactement le sujet de mon avis tranché, c'est que.
Alors, on t'écoute.
Plus on avance dans ce mercato. Et plus je me demande si de prendre un milieu de terrain à 30, 40 millions, on parle bien de 30, 40 millions.
Tu parles
millions.
Du PSG, en fait.
Oui, je parle du PSG, bien sûr.
Je parle du PSG, bien sûr.
Plus on avance dans ce mercato, et plus je me demande si 30, 40 millions sur un joueur qui finalement ne répondra pas entièrement aux vrais besoins du PSG. On va rappeler ce qu'est le vrai besoin du PSG, c'est d'avoir deux milieux, mais surtout un qui va être une plus-value pour ce milieu de terrain, un vrai boss au milieu de terrain. Pour moi, ce joueur-là,
en
au mercato d'hiver,
plutôt un vrai, plus que boss, je dirais un défensif,
un vrai milieu défensif.
Mais il manque clairement un milieu défensif.
Mais quand je dis un vrai boss, c'est parce que ce milieu-là, il va falloir qu'il ait du caractère, il va falloir qu'il puisse guider les autres autour. Il y a du lourd, et il va falloir que ce soit vraiment un joueur.
Comment veux-tu qu'un mec qui arrive en janvier puisse guider les mecs?
Eh ben, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça qu'en janvier, Daniel, je pense qu'en janvier, il n'existe pas ce mec. Et on est en train de le terme. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu, parce qu'on parle pas d'un joueur à 5 ou 10 millions, on parle quand même de 30, 40 millions d'euros. Alors je sais que c'est le PSG et que maintenant on a l'impression qu'en dessous 80 millions c'est pas cher. On parle quand même dans une période
au-dessous de 30 personnes discutent.
Bah ouais, mais c'est presque le souci aujourd'hui, parce que
discute en dessous de 30.
C'est qu'à ce prix-là, t'as pas de joueurs qui pour moi représentent une vraie plus-value. On respecte énormément le Doucouré, Gaï. Il y a la solution aussi prêt plus option d'achat comme Weigl aujourd'hui là qui arrive un peu sur le tapis. Soit dit au passant, c'est un joueur qui s'est fait bouger par Witzel.
Il n'arrive pas sur le tapis, parce que ça fait quand même.
Non, ça fait un petit moment, mais on en reparle. Ça avance aujourd'hui, quoi.
Il y a des relations.
Voilà, ça avance un peu plus aujourd'hui. Mais c'est un bon joueur. Mais est-ce que on a l'impression que ça va représenter quand même sur les 2-3 saisons qui vont venir une vraie plus-value pour le PSG?
Je vais apporter de l'eau au moulin de ton avis tranché, si tant est qu'il est à moulin. Thiago Silva aujourd'hui a donné une interview à l'AFP. Ceux qui sont en stage au Qatar.
Ah oui, là, en stage au Qatar, tout le monde parle, là.
Ouais.
Ah, c'est des interviews tombent,
très préparé.
Les interviews tombent comme à Gravelines.
Exactement, contre le Portel. Il dit, je cite Thiago Silva, je ne veux pas rentrer dans les joueurs du mercato. Mais tout de même,
il le fait toujours un petit peu. Thiago Silva,
on a besoin de joueurs à ce poste.
Non, parce que attends, c'est le capitaine. Et moi, je trouve ça plutôt bien.
Et il dit pourquoi? Parce que Marquinhos joue là. Et ben Marquinhos, c'est pas son poste, dit Thiago Silva. Et donc il met un petit coup de pression.
Il aimerait bien avoir Marquinhos à côté de lui derrière.
Ouais, c'est possible, je pense. C'est possible.
Bah, est-ce qu'il y a meilleur que Marquinhos à côté de lui
Ceci
derrière,
dit, est-ce qu'on a le droit de penser que garder ces 30-40 millions, parce que tu vas prendre. Allez, choisissons Idrissa Gueye. Qu'est-ce qui va se passer l'été prochain? On va dire que Idrissa Gueye n'est pas celui qu'il faut au milieu pour les 2-3 saisons pour aller au bout de la Ligue des Champions, etc. Donc tu vas avoir payé encore un joueur 40 millions d'euros avec un salaire conséquent sans t'apporter la réelle plus-value que tu as. Je me pose la question aujourd'hui, moi, est-ce qu'il faut pas conserver ces 40 millions, continuer comme ça les 6 mois? Alors on sait qu'il y a un besoin, on sait qu'il y a un manque. Tu fais avec. Tout le monde doit le savoir, les dirigeants doivent en être conscients. Le coach, lui, il est bien placé pour le savoir.
Mais déjà en berne tes ambitions en Ligue des Champions.
Alors tu sais quoi, un petit peu. Tu passes Manchester parce que tu peux passer comme ça Manchester. Si tu fais le match qu'il faut, là t'as pas besoin peut-être de beaucoup plus. Après ça dépendra un peu du tirage, j'ai envie de te dire. Si tu tombes contre une équipe à ta portée sans ce milieu de terrain, sans cette plus-value, pourquoi pas espérer faire un bon quart de finale.
Et Marquinhos va. Mais attends. Si tu me permets sur Gueye, je te rejoins assez là-dessus. Mais imagine que Gueye vienne maintenant. Je pense que t'as dû le voir bien plus que moi, parce que c'est le genre de match que tu commentes.
J'aime beaucoup le joueur, hein. Je précise que c'est pas, okay, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur.
Mais on est d'accord que s'il vient, match aller à Old Trafford. Marquinhos Verratti, et il est sur le banc.
Est-ce qu'il sera prêt?
Justement, je pense, pour faire souffler les autres.
Mais c'est encore pire.
Mais il passera,
si vraiment
passera
c'est
pas
ça, c'est encore pire.
Il passera pas devant.
Pourquoi on garderait pas ces 40 millions additionnés cet été à quelques autres dizaines de millions, voilà, parce qu'il y a eu des ventes,
Et
pourquoi
tu
mets pas 80, 90 millions ensuite sur un vrai milieu défensif?
Mais de toute façon, c'est prévu sur un Franky De Jong déjà.
Franky De Jong, je suis peut-être même pas sûr que ce soit le profil qui te faille réellement.
Écoute, moi,
c'est un très bon joueur.
La vérité, si c'est pour avoir Gueye, je te rejoins.
Combien coûte un N'Golo Kanté cet été?
Tu ne peux pas, N'Golo Kanté ne revient pas en France. Donc déjà, passe à autre chose.
Il y a des choses qui peuvent changer dans le...
Il y a des choses qui peuvent changer dans l'entourage
d'N'Golo Kanté qui feront que peut-être il pourra revenir en
France. Tu arrives au vrai sujet, si tu as une info là-dessus, ok. Mais a priori, compliqué. Mais en revanche, si tu peux là avoir même un mec comme Weigl et tout, hésite pas, prends-le maintenant.
Donc tu prends Weigl, tu prends Idrissa Gueye.
Non, pas Gueye. Tu prends
que Weigl.
Ouais.
T'as donc toujours
c'est
pas pour moi.
Joueur.
c'est un très bon joueur, j'aime beaucoup.
Non, mais il y a besoin,
Non, mais regarde ce qui se passe aujourd'hui à Dortmund.
Pas, non, mais c'est peut-être pas le profil idéal, je suis d'accord, mais t'as besoin d'un mec.
Ouais, mais un garçon comme Witzel l'a bougé à Dortmund. C'est il joue beaucoup moins.
Mais c'est normal. Witzel, pour moi, a toujours été sous-estimé. C'est un sacré joueur.
Ouais, mais de là.
Witzel,
ça veut dire que ton Weigl, qui est un bon joueur.
Moi, je trouve que c'est pas aberrant que Witzel ait mis, et poussé Weigl sur le banc. Witzel, et par exemple, le genre de mec que PSG aurait dû aller prendre.
Donc, t'espères que Weigl, progresse énormément dans les deux, trois saisons et devienne un...
Weigl est très bon, ouais. C'est juste que Witzel a été sous-estimé de par ses choix. Ses choix sportifs ont été très étonnants. La Russie, après il s'est barré en Chine, il est revenu. Mais regarde, ne serait-ce que sur la Coupe du Monde, je sais pas pourquoi, il y a eu une sorte d'association un peu bizarre.
Parce qu'il a fait ses choix.
Je dois confesser, j'ai fait à un moment... Fellaini, Witzel.
On a l'impression. C'est quoi? Parce qu'ils étaient au même poste et parce qu'il y avait les cheveux, je suis persuadé.
Je m'avoue moi-même dans cette bêtise. Un peu même profil. Fellaini, je l'ai adoré époque Everton. Il faut bien dire que derrière, il a pas toujours confirmé. Et c'est pas le même profil. Mais Witzel est bien au-dessus pour moi. Witzel est d'une toute autre dimension.
Donc, je suis pas persuadé qu'un garçon...
Que lui ait poussé Weigl, pour moi, ça ne réduit pas les qualités de Weigl qui reste un très bon joueur.
Peut-être pas. Sur le cas Weigl.
Il faut un mec, Pierre.
32-16, messieurs, si vous voulez.
Beaucoup trop cher. Alors Weigl, c'était un peu différent. En quantité, il faut un mec. T'as un prêt. Ah, mais il en faut même deux en quantité. Il en faut presque deux.
En tout cas, un minimum.
Cet été,
un
minimum. Peut-être pas deux cet hiver, mais deux.
Sur le hashtag RMC Live, Alexis le dit. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt signer deux simples joueurs de Ligue 1, puisque de toute façon, ce sera de la pointe.
Mais non, faut arrêter.
Pas de Ligue 1, mais.
Joueurs de Ligue 1, c'est pas possible. À une époque, ils ont fait Kaba, Istanbouli, bon, c'est tout, je pense. Non, mais ils ont fait.
Non, mais c'est pas assez.
C'est pas assez pour le PSG.
Ce que je dis, c'est. Est-ce que tu dois pas faire.
C'est trop tendre.
Est-ce que tu dois pas rien faire plutôt que de faire quelque chose qui va te coûter quand même 40 millions d'euros? Faut aussi retrouver un peu de rationalité,
si c'est
quand même 40 millions d'euros.
Rien. C'est important. C'est un bon transfert. Maintenant, est-ce qu'il va pas faire un peu doublon avec l'idée que tu prennes Frankie de Jong ou ce genre de mec au milieu?
On en revient à la même chose, c'est que ça ne répond pas exactement à ton besoin.
Attends, moi je te dis
précisément, à terme, on parle de...
Moi je te dis qu'à terme, si tu prends Weigl maintenant, tu prends Frankie de Jong après, c'est Verratti qui a plus sa place. La vérité, elle est là. C'est que Verratti, il peut
plus
faire.
Tant mieux, parce que ça voudrait dire que tu élèves ton niveau de concurrence.
Il ne te fait pas des saisons entières, que ça fait plus de 5 ans qu'il est au club, qu'il n'y a pas de progression, qu'on sait que physiquement, il a un problème récurrent, que si cette année, il arrive à te sortir enfin 2-3 gros matchs en Ligue des Champions, parce qu'il se bouge un peu le cul, on sera tous très contents de le voir, parce qu'on sait les qualités qu'il a, mais au fond, par rapport à tous les milieux de terrain en Europe, il est derrière maintenant. Il ne frappe pas, il ne fait pas de passes décisives.
J'ai l'impression, Daniel, on en a souvent parlé ensemble.
Voilà. Donc, aujourd'hui, ces équipes qui vont. Weigl, Frankie de Jong, tu reprends un autre. En vrai, c'est Verratti que tu vas vendre ou qui deviendra remplaçant dans cette équipe.
À terme.
Ou qui jouera la Ligue 1.
À terme peut-être, ou alors ça lui bougera les fesses et il deviendra un peu plus sérieux et un peu plus...
32-16, on vous attend. Autre message.
Toutes ces années, c'est un mec qui n'a pas progressé comme on l'escomptait.
On en a souvent parlé, Daniel. Moi, j'ai l'impression que les équipes vont au bout...
C'est normal, c'est son secteur de jeu.
Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est presque factuel depuis des années. Les équipes qui vont au bout ont toujours ce milieu.
Ouais, bien sûr.
Pas dans le profil de Jong, pas dans le profil de Weigl, pas dans le profil de Verratti,
Weigl, il envoie, hein.
Ouais, il envoie, mais c'est pas.
Non, mais toi,
je te parle d'un.
Mais le 6, un peu comme ça, c'est qui? Genre Fernandinho,
Casemiro, Busquets.
C'est Fernandinho. En profil,
Fernandinho
c'est
aussi.
Mais en
c'est,
profil.
Non, mais c'est qu'ils sont inatteignables, c'est ça le problème.
Après, il y a qui d'autre un peu dans.
Bah après, c'est pas exactement le même profil, mais c'est un Kanté qui revient à son poste. Où là, c'est énorme en termes de récupération.
Mais ça dépend. Si tu joues à deux, joues à trois, c'est pas la même chose. Tu joues à deux, t'es pas obligé d'avoir ce mec-là.
On va encore aller sur des profils qui sont réellement celui qu'on cherche exactement.
Hashtag RMC Live. Daniel Pepito qui lui dit si c'est pour prendre Gay, il fallait garder la Sanadira. Bon, c'est un avis.
Rien à voir.
Peut-être pas quand même.
La Sanadira a clairement démontré qu'il ne peut pas jouer. Et que là, pour le coup, c'était un panic buying, clairement échec. Je vous rappelle que c'était l'hiver dernier, là, c'est à dire.
Ouais,
on faisait des débats sur lui, qu'on disait, mais comment ce gars-là peut après
être. À partir de quelle date on rentre dans la période de panic buying? Là, on est le 15. Non, le 14.
Le 20, après le 20 janvier.
Après le 20, c'est panic buy?
Moi, je me demande si parfois tu peux pas en faire même avant, quoi. Non, mais c'est ça qui est terrible. Parce que le contexte te fait le faire.
Panic buying au premier jour des soldes. quand t'es allé faire les sols mercredi.
Tu sais quand tu
pouvais, ça dépend du monde qui est dans le magasin.
Quand les gens jeter un coup d'œil, tu dis je reviens dans deux semaines.
Ouais, non, mais tu sais quand les gens ils passent sous la porte et ils vont se jeter sur le premier truc venu, et puis tu le prends, tu l'achètes, et puis tu dis putain merde, je l'ai pris parce que j'avais peur qu'on me le prenne. En fait, c'est pas ça, quoi.
Ça n'existe plus, les images des mecs qui se jettent.
Tu rigoles. J'en ai encore vu, et c'est très malheureux. J'en ai vu même dans un supermarché sur des grosses plaquettes de chocolat. Il y a encore au début des soldes, où les gens se sont jetés dessus, un peu comme à l'époque le Nutella.
Les soldes sur le chocolat.
Mais oui, bien sûr. Si oui, c'est
j'ai un petit tweet de Aimé qui nous dit.
On a pas eu le temps de voir. Ils sont touchés.
Aimé nous dit, moi j'ai 20 ans, je suis un ancien 6. Collant au cul du 10. Quel pied de gâcher son
match. Il a 20 ans.
Et de ne pas le lâcher d'une semelle.
Il a 20 ans. Donc c'est jeune, c'est ça se fait encore.
Non,
mais dans les cas.
Il a 20 ans.
Non, mais dans le football amateur, je suis sûr que ça existe encore dans le foot amateur.
Mais non. Mais
toi, s'il joue peut-être dans des clubs un peu déjà où
il joue à Verneuil-sur-Seine, dans un petit club amateur.
Il y a Bassman, il nous dit, venez en district, vous allez voir que ça existe encore, les 6 et les 4.
J'en étais sûr. Je le savais, je le sentais.
Encore pauvre,
mais pas à 20 ans.
Bon, allez, stop. On arrête sur le mercato parisien.
Dimanche, le 6 colle au cul du 10, c'est
vient. Passe au 6.
Mais c'est qui votre 6?
Ah, notre 6, c'est un de nos meilleurs joueurs. C'est Pirlo. Il s'appelle Marc.
Ah, je connais pas. Il
travaille à la régie des RMC. Réincarnation de Pirlo, le gars.
Ah, bah donc c'est pas un. Oui, mais c'est un 6 qui est
meilleur. Meilleur joueur, c'est malheureux pour Jérôme et Ludo Aubryac qui jouent avec vous, quoi.
Ouais, mais Jérôme et Ludo, c'est des guest stars. Ils viennent pas à tous les matchs.
Ah, d'accord, ok.
Ah, c'est pas bon, le meilleur?
Bah, pas à ce poste-là. Dans quelques instants, l'avis de Daniel. Sur la com de l'OM, plus encore de l'actu mercato à suivre. Et un point sur les directs. Red Star lance. C'est Jordan Olivier qui est sur place.
On est entré dans les 10 dernières minutes. Toujours un but à zéro pour le Red Star. Un but d'Abdel Djellil. Mais ça se précise du côté des Lensois qui mettent de plus en plus la pression sur le but de Sébastien Reynaud. Les Odoniens tiennent bon. Il reste 7 minutes à jouer. 1-0 pour le Red Star.
Gravelines Le Portel, Jean Baumel.
C'est terminé avec la victoire de Gravelines, 86-71 plus 15, donc pour les Nordistes face aux joueurs du Pas-de-Calais, forcément fanfare et bonne ambiance à Sportica.
Salut Jimo. Et puis le match de City, évolution de score, non pas d'évolution de score, 2-0 pour City face à Wolverhampton après 69 minutes. À tout de suite dans l'after pour parler de l'OM.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, évidemment, comme tous les soirs en direct, l'after est là sur RMC Sport News, Pierre Ducrot ce soir, Daniel Riolo ce soir, également les drôles de dames, tout à l'heure à 23h, hein, n'oubliez pas, le foot européen comme tous les lundis, alors pas d'Allemagne, David Lorto est toujours en hibernation, quelque part en Afrique du Sud, ouais, il nous dit quoi, à Dubaï aussi, c'est un peu la mode pour les Allemands ces temps-ci. Dubaï, c'est la mode pour tout le monde, hein. Depuis qu'il y a les steaks en or, tout ça.
Exactement.
Et puis Jean Baumel. Alors Jean Baumel, si vous voulez. Ah ben non, c'est fini Jean Baumel. Son basket est fini. En revanche, Jordan Olivier, lui, son port de villégiature, c'est Beauvais. Là où joue le Red Star. Red Star lance Jordan.
Beauvais, hein,
et c'est très sympathique,
restaurant.
Beauvais. Hein. C'est très sympa, mon cher Daniel. Tu devrais essayer de temps en temps de venir à Beauvais lundi soir.
À 22h30, Beauvais, je sais pas, mais le stade de Beauvais.
Alors, il y a en tout cas les Lensois, plusieurs centaines de supporters Lensois qui sont venus pour mettre un peu d'ambiance, parce qu'effectivement, du côté des supporters du Red Star, c'est un peu plus compliqué. Depuis que le club a été délocalisé à Beauvais. Et en tout cas, il reste 3 minutes dans cette rencontre et les Odoniens qui tiennent leur exploit, ils mènent toujours 1-0. Malgré, il y a quelques instants, on a eu une très grosse occasion pour Mounir Chouillard, le Lensois qui a frappé, mais sa frappe est passée juste à côté du but de Sébastien Reynaud. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire et pour le moment, le Red Star tient sa victoire, 1-0.
L'avis de Daniel tout de suite qui concerne l'OM et sa communication, c'est parti, jingle.
Je milite demain, tu me demandes on signe un papier pour légaliser le dopage, mais qu'ils prennent tous des picots dans le cul, si c'est pour les faire courir. Hein.
Oh, tu penses comme ça, toi, Daniel?
Il devait y avoir un contexte.
C'est le principe des jingles, c'est qu'on fait fi du contexte.
Bien sûr. Exactement.
Alors, tu voulais parler de l'OM, exactement.
Sinon, ça fait longtemps que je me serais bouffé les...
L'OM a pris la mauvaise habitude de se mettre en prison tout seul, et notamment en raison de sa communication. On se souvient de l'époque toute récente de Vincent Labrune qui avait traîné comme un boulet le fameux projet Dortmund. Et là, quand les nouveaux patrons sont arrivés, ils ont avancé avec ce projet Champions Project.
Ils ont mis la barre haute.
Avec des sommes d'argent promises et des dépenses aussi, parce qu'on oublie souvent de le dire, mais il y a quand même de l'argent qui a été dépensé, même s'il a été mal dépensé. Et en fait, bon, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi communication de Jacques-Henri Hérault.
Non, mais sauf que même sur le OM Champion Project, quand t'as un PSG qui à l'heure actuelle investit ce qu'il investit et a autant d'avance, tu peux pas démarrer comme ça.
Oui, bah puisque
déjà, première erreur.
Puisque tu parles de ça, il y avait eu quelques phrases genre on va essayer d'embêter le PSG, souvent avec de la com un peu contre le PSG. Bon, pour rappeler que c'est un rival, et après tout ça là-dessus, je peux pas dire à l'OM que là,
non, mais qu'ils en aient l'ambition, c'est bien.
Bah voilà, je peux pas dire mais qu'ils doivent se résigner comme ça, face au rival.
Non, mais ça
dangereux. Faut pas leur reprocher.
C'est dangereux.
Faut quand même être vivant et pas baisser la tête. Ça, oui. Enfin, ils ont pris l'habitude de s'enfermer et de se faire prisonnier tout seul de leur communication. Et Marcel, je sais plus ce que j'allais dire là. Je suis en train de dire.
Bah voilà, non, mais c'est tout, c'est fait.
La com, c'est ton avis. Colum se met en prison, tu disais.
Voilà, c'est l'avis de Daniel. Bah moi, si je peux réagir à l'avis de Daniel, effectivement.
T'as réussi à l'embrouiller, là.
L'OM se met dans une prison tout seul.
Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, plutôt que de faire comme ils ont fait hier soir, où finalement les joueurs ont à moitié improvisé une rencontre avec les supporters en faisant croire qu'ils pouvaient sortir quelque chose de dialogue, alors qu'on sait très bien qu'il va rien en ressortir, et que c'est d'abord les joueurs dans la responsabilité qui est la leur d'être sur le terrain, d'essayer de trouver une solution, mais aussi, j'en reviens donc à ces dirigeants qui doivent. Quand je parlais de prisonniers, ils ne le sont pas que de la com actuelle. Ils sont également, ça c'est pas de leur fait, prisonniers aussi d'une histoire qui est glorieuse et donc où on attend sans arrêt que Marseille finalement gagne. Alors ça pousse pas forcément les dirigeants à être honnêtes ou en tout cas être lucides, clairvoyants et de dire finalement, nous avec le budget qu'on a, on peut pas, il faut qu'on soit clair, on pourra pas attirer des grosses stars. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est nous faire croire que Payet et d'autres étaient des grosses stars.
Ils sont pas en phase avec la réalité.
Voilà. Champions Project, alors qu'ils ne peuvent pas être champions. À moins qu'on considère que champion, ça veut dire aller en Ligue des Champions. Mais même ça, c'est pas forcément gagné à partir du moment où tu réussis pas tes mercato. En fait, il faudrait qu'ils parlent, et aujourd'hui, c'est, vu la situation du club à l'heure actuelle, très important que Jacques-Henri Hérault soit un peu moins rigide et disent clairement, comme je le disais il y a deux lundis là sur la dignité et tout, nous à Marseille, on va faire avec ce qu'on a, on donnera le max avec ce qu'on a, mais on va arrêter de vous raconter des conneries, de vous faire croire qu'on pourra avoir un tel, qu'on pourra faire ci, qu'on pourra faire ça, parce qu'à l'arrivée, c'est un petit peu, je termine sur la communication, l'épisode de la tisane, quand il avait sorti cette phrase, il était évident que ça allait lui revenir dans la gueule un jour ou l'autre. Et à chaque fois que tu fais ce genre de déclaration dans le foot, tu crois que ça ne te revient pas dessus, ça finit toujours par te revenir dessus, même quand tu crois qu'une bonne saison t'a mis à l'abri de lendemain qui déchante. C'est exactement la situation actuelle.
Mais c'est pour
donc,
ça.
Je pense que Franck McCourt, qui parle peu, même si là c'était pour dire qu'il soutenait Rudy Garcia tant que l'objectif Ligue des Champions n'était pas mort, je pense que lui a intérêt à sortir du bois. Je pense que Jacques-Henri Hérault a également intérêt à redimensionner un petit peu le projet, à dire clairement où sont les choses. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'été prochain? Combien vous allez pouvoir dépenser? Clairement, qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre ou pas? Petit peu plus de clarté. Voilà, j'ai terminé.
C'est pour ça.
Et pardon pour ce trou qui, je pense, je vous jure, j'ai eu un trou dans la tête. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne voyais plus clair.
Ça arrive très souvent.
Oh, c'est la période.
Ouais.
Puis t'es d'accord ou pas?
J'ai eu un souci.
Je te crois, t'es pas le premier à qui ça arrive quand je discute avec des gens. Mais j'allais te dire.
C'était terrible.
Mais tu sais quoi, ça te rend humain, Daniel.
J'étais malade.
Ça te rend humain. T'as aussi quelques failles parfois. C'est bien aussi. Pourquoi tu mets pas alors dès le départ l'intitulé du projet marseillais, parce que pour moi ça résume exactement ce que tu dis.
Quel intitulé?
Le Champions Project. Tu me dis c'est normal, il faut qu'il soit ambitieux, machin, etc. Non. Aujourd'hui, quand tu arrives
ambitieux dans on va pas se coucher devant le PSG.
C'est une première erreur parce que c'est te mettre dans une situation et dans un contexte super difficile. Voilà, tu dis rien, tu dis voilà, on est là pour faire quelque chose de bien. On va mettre un peu d'argent. On espère faire des belles choses, etc. Mais t'afficher comme un futur champion dans une ère où le PSG domine grandement son championnat.
Ça va un peu loin parce que je suis pas sûr qu'ils soient allés jusque là.
Je pense que déjà tu te mets. Non, mais c'est quoi? C'est ambigu. Ambigu, ouais. Donc ça laisse la place au doute, et puis ça, où tout le monde s'engouffre quand ça marche pas forcément. Sur l'épisode des joueurs, moi je voulais juste revenir. Je l'ai pas perçu aussi mal que toi hier, moi. Il y a peut-être un peu de maladresse. Il y a forcément, et là je te rejoins.
Alors les joueurs, je donne quelques infos. Les joueurs n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde. Hein.
Ouais, parce que ça a été décidé sur le tard.
Il y en a certains qui voulaient pas, et d'autres, notamment Mandanda, qui ont pris l'initiative d'y aller, mais certains voulaient pas.
Là où je rejoins Daniel, c'est qu'il y a pas unanimité dans la démarche. Il y a forcément rien qui en découle. C'est forcé d'une discussion comme ça.
Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Non, mais je dis surtout pas qu'ils ne devaient pas le faire.
Moi, c'est surtout l'intention qu'ils ont eue. En fait, je pense qu'ils ont eu une intention de montrer à l'extérieur et à leur public qu'ils étaient solidaires, qu'ils étaient ensemble, et de dire à leur public, on a entendu ce que vous aviez à dire. Voilà, on l'a pris en pleine figure. J'allais dire en pleine figure, c'est bien. En pleine figure, c'est bon, ça suffit. Soyons ensemble, soyons solidaires. Nous, on lâche pas. Il n'y a pas de problème dans le vestiaire. On vous le répète là en face. Soyez avec.
Mais là, aujourd'hui,
donc, je trouve pas ça inutile par rapport à leur relation avec les
joueurs.
Les
joueurs jouent et aillent sur le terrain avec un bon état d'esprit. Moi, ce que je dis, c'est autre chose.
Ah, bah, il y a d'autres problèmes à régler, forcément.
C'est les dirigeants, là, qui doivent, clairement, quand t'entends Rudy Garcia parler encore hier soir après le match, dire qu'il est limite, bon match, machin, ça faut arrêter. Jacques-Henri Hérault, viens, explique-nous clairement le projet, où on va, qu'est-ce qui se passe, machin. Après, j'ai peur qu'ils soient un peu coincés. Ce que je disais,
financièrement,
ils ont des années de se mettre des boules au pied. Il s'est mis un boulet au pied. Alors, avec la prolongation de Garcia. Stop. Il s'est mis un boulet au pied avec un mercato foireux, avec Zubizarreta qui devait avoir du pouvoir et
Daniel,
il n'en a pas.
S'il te plaît.
Et comment ça va se finir tout ça? Les deux vont être obligés de dégager. Voilà.
C'est fini au Red Star, Jordan. Red Star lance.
Victoire du Red Star, 1-0 grâce à Oussama Abdeljelil. C'est l'exploit de cette journée de Ligue 2 grâce à cette victoire. Le Red Star quitte la dernière place au profit de Nancy. Le Red Star a tout de même un match de plus que les Nancéiens.
Merci Jordan, bonne soirée. Mickaël est avec nous, 32-16 supporters marseillais. Salut Mickaël.
Salut Gilbert, salut Pierrot et salut mon idole de toujours, Daniel Riolo, bien sûr.
Salut.
Est-ce que t'es d'accord avec Daniel sur son avis du soir?
Non seulement je suis d'accord, mais le truc c'est la toussie, quoi. Parce que moi j'avais envie de réagir et justement donner les mêmes arguments, mais ça va être compliqué pour moi d'en rajouter parce que aujourd'hui on a critiqué hier beaucoup les supporters de leur réaction, des sifflets, etc. Il faut comprendre que cette réaction elle est due à des années de gestion catastrophique à l'Olympique de Marseille. Et là on a été racheté par un investisseur, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Et on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Est-ce que vous imaginez un peu où on se trouve, nous, l'Olympique de Marseille, soi-disant plus grand club de France? On n'a plus d'argent, on a un entraîneur qui n'a plus de solution. Dans le jeu, il ne propose rien. On a vu également des choix mercato, comme on peut en citer plein, voilà, Payet, Radonjić, Kalaitaktar, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. C'est des joueurs qui ont coûté une blinde et qui sont sur le banc. Hormis les grands clubs comme le PSG qui sont plein de thunes, ou le Barça ou le Real qui peuvent se permettre de mettre des joueurs très chers sur le banc, un club comme l'Olympique de Marseille, on n'a pas le droit de faire ça. Je pense que les joueurs, si tu l'achètes, c'est pour le faire jouer. Voilà, si tu l'achètes, c'est pour le faire jouer. On connaissait nos lacunes défensives. On a essayé de ramener des joueurs. Au final, ils ne jouent pas. On connaissait nos lacunes en attaque. On a ramené un joueur. Je pense qu'il n'a pas été courtisé correctement. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire une seule seconde que ce Mitroglou, je parle de lui, a été, comment on emploie le mot là, quand il a été observé par les recruteurs. Je ne peux pas croire une seule seconde que ce mec, il a été observé dans les règles. Je pense qu'ils ont juste regardé les stats de Mitroglou. Ils ont vu que c'était un mec qui tapait des buts à Benfica.
Ouais, sauf que c'est une grosse erreur de casting.
Mais oui, bien sûr. Voilà, ils étaient pris par la pression des supporters, il faut dire, et les médias. Il faisait que parler de d'attaquant. On s'est dit, ok, il reste une journée du mercato, on va acheter ce mec. Ils l'ont acheté, ce qu'ils l'ont acheté. Certes, ça coûte très cher. Puis quand on voit le résultat du mec.
Mickaël, on parlait de panique buying tout à l'heure. Voilà, ça, c'en est un bel exemple.
Mais bien sûr, mais encore. Mais surtout, moi, je me dis que la plus grosse erreur cette année, au-delà du fait qu'ils n'ont pas réussi dans le mercato, c'est la prolongation de Garcia. Franchement, sur ça, je trouve que c'est dramatique. Quand on voit un entraîneur qui n'arrive pas à proposer du jeu, il n'a pas de solution, tu le prolonges. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'il est prolongé? Tu ne peux plus le virer, parce que tu n'as pas les moyens de le virer. Forcément, tous les supporters sont contre lui. On a bien vu hier, il a pris des messages, des cris, des missions, etc. Lui-même ne sait même pas comment réagir en conférence de presse. Il ne sait même pas quoi dire. Il sait même pas. Il essaie de défendre et de couvrir ses joueurs parce que c'est son métier. Mais même lui, il n'y croit pas. Je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse être aussi optimiste. Je pense que lui-même, comme beaucoup de gens ici, même vous, je pense que vous êtes conscient que l'Olympique de Marseille, ils n'iront même pas dans le top 3. C'est impossible. Voilà, c'est impossible qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions. Après, sauf si Lille se casse la gueule, mais je pense pas. Honnêtement, Lille, sont bien partis pour réussir leur saison.
Je te rejoins, là, ça va être compliqué.
Ben oui, donc c'est évident qu'au mieux, on finira encore à se qualifier pour l'Europa League. Mais l'Europa League, c'est bien beau, mais quand on voit aujourd'hui cette année comment on l'a joué, bon, je me dis que l'année prochaine, si en plus on va avoir les mêmes joueurs, Payet, qui en 12 matchs, j'ai regardé ses stats tout à l'heure, 12 matchs, c'est 0 passe décisive, 0 but. Le mec t'a coûté 30 millions. Il faut arrêter le délire. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est okay. Les joueurs le problème, c'est un tout. C'est le champion de projet, c'est la communication des héros, c'est également les choix tactiques de Garcia, et la progression de Garcia qui est catastrophique à mon sens. Voilà.
Merci Michael. Un avis Michael, long mais construit de Michael et argumenté.
Il y a cette saison dernière qui est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi.
Deux petits messages pour vous. J'ai Alain qui lui dit moi je suis de Beauvais messieurs. Pourquoi tant de mépris? En plus je suis sûr que vous n'êtes jamais venu.
Si,
c'est pour Daniel, c'est pas pour moi.
Rajouter une petite louche.
Pas du tout. Moi, j'ai parlé du stade justement. J'ai dit que je ne parlerai pas de Beauvais, je parlais du stade.
Bon, réhabilitons
Beauvais. Je connais très bien Beauvais. Attends,
puis Adrien qui nous dit.
Je trouve dingue, c'est qu'à chaque fois.
Mais non, ça c'est comme
sur une ville.
C'est quoi?
C'est comme Amiens qui viennent chialer.
C'est comme Amiens. C'est Amiens. Tout le monde critique Amiens. Il y a des petits endroits charmants à Amiens.
Amiens, il y a deux trois rues sympas et tout, c'est vrai. Mais
t'es déjà allé à Niort comme Michel Houellebecq?
Niort, non.
C'est juste qu'il a pas lancé sur Niort.
Son
bouquin. Il a dit que c'était la ville la plus moche du monde et tout.
Moi, je suis allé pour jouer, mais aller-retour, j'ai pas vu.
Franchement, il y a plus moche que Niort, en fait.
Et puis, j'ai aussi un message d'Adrien.
Tout le monde pense habiter la plus belle ville du monde, mais il y a forcément une hiérarchie dans la beauté des villes.
La plus belle ville du monde, tout le monde sait que c'est Strasbourg, de toute façon. Adrien nous dit, il y a un décalage, messieurs, entre les amateurs à Paris et dans les campagnes. Chez nous, en campagne, en district, le 6 colle le 10, messieurs.
Mais on vient de le dire, bien sûr.
Excellent. Dans quelques instants,
colle
le VAR.
Cul, Didis.
Dans quelques instants, le VAR, bien sûr, au programme de l'After et ensuite les drôles de l'âme jusqu'à minuit. On revient tout de suite, bougez pas.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo, bien sûr. Je vous rappelle que tout à l'heure, le Red Star a battu Lens 1-0 en Ligue 2. Ils sont pas très bien, Lens, hein. Cinquième ce soir de Ligue 2, là.
Ils perdent du terrain, récemment, ouais.
Le Red Star est toujours relégable.
Puis ça avance vite devant, donc.
Ouais, Metz, ils vont monter, Metz.
Ouais, Metz, Brest est bien aussi.
Ah, Brest? Ouais, mais Brest, il y a toujours la Schkoumoun sur Lens.
Le non, moi j'aime bien. Ah non, pas pour monter.
Pas pour monter. Furlan il monte.
Non.
Fufu il est encore arrivé.
Fufu il monte.
Au tir au but, il y a qu'à Furlan.
Mais oui, non, mais non. Fufu c'est l'expert pour monter. Après, c'est plus dur pour se maintenir. Eh oui.
Tu l'avais pas Lan. Tu préfères l'appeler Fufu. Très bien.
C'est Fufu.
Manchester City face à Wolverhampton 3-0. On est dans le temps additionnel. Le VAR, je voulais en parler. Jingle moi.
Gilbert Brebois, il est là.
Il y avait longtemps celui-là, ouais, il y avait longtemps.
Alors, oui, dès que je parle de VAR, je me prends tout de suite des messages. Ouais, Bribois, le VAR, un ayatollah, des anti-VAR et tout. Non, essayons d'aller un peu plus loin. On en a parlé tout à l'heure dans Team Dugas avec Daniel.
Oula, oui, donc là, on n'était pas allé très très loin. J'espère que tu vas aller un peu plus loin.
Non, mais...
Ça a vite fait...
On va essayer de le faire de façon un peu plus dépassionnée.
Ah oui, d'accord.
Bon, ok, le VAR est là.
Le VAR est là.
Pas l'arbitre, hein, mais le VAR est là. Vous l'avez compris, il ne repartira pas.
C'est sûr que non, ça.
Donc, maintenant, faisons des propositions, et c'est ce que j'aimerais faire ce soir, pour l'améliorer. Tout à l'heure, on s'est écharpé avec Dugas. Lui, il estime qu'il y avait faute, quoi qu'il arrive, d'Ocampos hier, sur Benaglio. Ouais,
il estime que tu comprends rien au foot, c'est pas pareil.
Nous, avec Daniel, on a expliqué que pour nous, il n'y avait pas faute.
Ah, tu peux me mettre avec vous. Moi hier, aussi. En direct, j'ai pas changé d'avis. Donc, je comprends rien au foot. Pour moi, il n'y a pas faute.
Bon, donc, en gros, les suiveurs du foot sont partagés. Il y a ceux qui croient qu'il y a faute, il y a ceux qui croient qu'il n'y a pas faute.
Comme sur, j'ai envie de te dire, comme sur toutes les fautes.
Non, mais moralité.
Quasiment.
Première moralité de cette affaire.
Le truc, c'est que l'expression n'est même pas bonne, Gilbert. C'est pas qu'on croit qu'il n'y a pas faute. C'est que il y a faute littéralement puisqu'il y a un contact.
Oui. Mais l'image n'est pas une faute.
Le contact ne veut pas dire qu'il y a une faute. Doit conduire à l'annulation du but, c'est ça. Parce que faute,
tout
il y a.
Tout à fait.
Et c'est bien. Mais en fait, c'est de là que venait tout le problème de la VAR.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait faute.
À partir du moment où tu t'arrêtes sur une image, l'image te montre. Oui, il y a faute.
Non, qu'il y a un contact.
Essaye de comprendre la nuance que je veux mettre.
Et justement, la comprends bien, mais s'il y a faute, tu peux annuler le but, justement.
L'image, à partir du moment où elle démontre le contact, te conduit à dire qu'il y a faute.
C'est une erreur.
Voilà. Donc c'est après. C'est ça, toute l'idée de l'esprit que nous, on a toujours défendu. C'est que si tu prends juste l'image, c'est comme si tu prends l'image avec le ballon qui va sur la main, il y a faute, ça te conduira à pénalty. Alors que dans l'esprit, ça ne doit pas être toujours comme ça. Pardon, voilà. Moi j'en reviens toujours au pénalty, le Croate à la finale de la Coupe du Monde. Pour moi, on ne doit pas siffler.
Alors, voilà, je reprends.
C'est l'interprétation, toujours le même problème.
Je reprends mon avis.
Mais à partir du moment où l'image indique aux yeux de la Terre entière qu'il y a eu ce contact,
tu n'analyses pas.
Ça conduit à donner faute.
Dans la, avec le VAR, tu n'analyses pas une image, tu analyses une vidéo.
Ça change l'analyse.
Non, mais surtout, dans une continuité, en fait, c'est pas une image. La moralité de tout ça, c'est que une image ne signifie pas forcément une faute.
Bien sûr que non.
Voilà. Et l'image n'est pas la vérité, non.
Et l'image n'est pas la vérité, non. Voilà. Donc, proposition, arrêtons d'utiliser la vidéo sur ces trucs à interprétation. Utilisons la vidéo pour des choses concrètes et simples. C'est trop compliqué, là. En fait, c'est ça qui nous fout le... Bah
c'est soumis à une interprétation qui va changer suivant les individus.
Donc en fait, c'est contraire avec tout le monde. Je pense que les arbitres eux-mêmes, des fois, se retrouvent devant l'image en se disant...
Le cas qu'on aime bien nous, c'est, elle arrive même pas une fois par match. Hein.
Bah,
l'erreur absolue, scandaleuse...
Et bah, s'il faut utiliser la vidéo une fois par journée, bah, utilisez-la une fois par journée. Et alors
enfin moi, on n'est pas là pour le.
Elle répare un peu comme la goal line. Quoi.
Voilà, bon. Voilà. J'allais dire, c'est la goal line pour ça est parfait.
Elle répare, ouais,
bien sûr. Pardon.
Mais de toute façon, la naissance.
Sur
la
les hors-jeux, on peut quand même y arriver.
Bah, encore faut-il se mettre d'accord. La machine, c'est très compliqué.
Si
c'est clair et net, genre d'un mètre. Oui,
non, techniquement, tu vas réussir à améliorer le truc. Je pense pour que ce soit ça devienne parfait.
Non, oui, mais faut quand même se mettre d'accord.
Moi, un peu comme une photo finish, un peu comme
pour que le mec dans le camion dise, oh là, c'est tellement net que je dérange l'arbitre. Si c'est pas net, je le laisse.
Voilà.
Vas-y, laisse tomber.
Parce qu'il faut se mettre d'accord. Là, on a vu des hors-jeux décidés avec la VAR pour un demi-pied, hein.
Et ça, c'est pas, ça, pour moi,
c'est pour un demi-pied, c'est hors-jeu.
À un moment donné, t'es bien obligé d'arrêter, tu sais, c'est comme l'excès de vitesse, pour 1 km/h, je suis en excès de vitesse. Parce qu'à un moment donné, il faut une limite, quoi.
Moi, j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que, souvent, les grandes réformes comme ça viennent d'une émotion. La décision, dans la tête de beaucoup, d'introduire finalement la vidéo dans le foot, Elle a mis un petit peu de temps à arriver, mais elle n'est pas venue avec la main de Maradona. Elle est venue bien des années plus tard avec le vrai faux but de Frank Lampard.
Ouais.
C'est là où vraiment les gens se sont dit, là le foot déconne, parce que il y a un but, le score à l'arrivée, je ne sais pas s'il aura été changé, mais là en l'occurrence, les Anglais doivent revenir à 2-2, mais même à la limite, peu importe. Mais là, on était au-delà de l'injustice.
C'était de l'injustice, quoi.
C'était au-delà. Et même moi, j'ai été, ce soir-là, extrêmement gêné. Parce que j'ai dit, mais merde, là, voilà. Après, il y a eu, c'est la Coupe du Monde 2010, ce truc-là. Il a fallu du temps pour que ça se fasse. Et on y est aujourd'hui. Mais ce cas-là, c'est un cas manifeste et c'est un cas qui a été réparé par la goal line. Alors après, pour ce qui est du reste...
Peut-être qu'on a voulu aller trop vite.
Ouais,
ça a déjà pris du temps, mais peut-être qu'on a voulu aller trop vite ou incorporer trop de cas.
Moi, je pense que la recherche absolue de justice nuit à l'efficacité. C'est-à-dire qu'on veut absolument il y en a marre des injustices, mais ça fait partie de la vie du sport.
Faut que tu les acceptes.
Justice, finalement, tu t'aperçois que ce week-end, et puis malgré la VAR, il y en a eu plein d'autres.
Donc, la VAR crée l'injustice.
T'en as réparé certaines, d'autres
les
as échappées.
Gilbert a raison. À un moment donné, on met la VAR en place pour réparer l'injustice. Après, ça se traduit malheureusement pas que comme ça, et ça en crée d'autres. Mais au départ, c'est le but.
Début de la saison, il y a eu énormément d'entraîneurs qui se sont plaints, des joueurs un peu partout en Europe.
Ça continuera quoi qu'il arrive, même si la VAR un jour est parfaite, les gens continueront.
Moi, je rêve d'un vrai sondage. J'aimerais que les 500 joueurs pro français, Ligue 1, Ligue 2 confondus, parce que c'est à peu près ça, il y en a à peu près 500.
Un peu plus quoi, qu'ils disent qu'ils sont pour encore un an. Dans un an, ça évolue.
Moi, j'aimerais qu'on fasse un grand sondage et qu'ils tous disent, et les entraîneurs compris, ok, est-ce que si aujourd'hui je vous laisse le choix entre la laisser et l'enlever.
Oh, je pense que t'auras beaucoup de oui, Gilbert.
Je pense que t'auras dit oui.
Ouais,
petit
à petit, c'est 55-45.
Non, parce que je pense que dans l'inconscient, quand même, tous ces joueurs-là vont se dire, et à juste titre, c'est pour réparer les injustices, donc c'est bien. Moi, je serais plutôt partisan, comme tu le disais au début, d'essayer d'améliorer ce système.
Petit à petit,
donc peut-être sortir des cas qui sont un peu trop imprécis. Ou un peu trop tendancieux.
On dérange trop la bordée à d'autres cas. Trucs, machin, qui quand il va voir, se retrouve dans l'obligation de siffler, parce qu'il a vérifié et tout. Non, ça doit vraiment être,
Dans quelques instants, Mathieu donne son point de vue au 32-16. Et puis, les drôles de la VAR arriveront. Simone Rovera est là. Bourré de panettone pour 6 mois, bien sûr. Il nous en a ramené un au bureau, tout à l'heure.
C'est vrai?
Ah bah ouais.
Ah
bah
j'en ai pas vu la couleur. Moi.
Eh ben c'est normal, il est parti vite. Hein. Tac, tac, plus de palettes.
Ah ouais, bah quelle heure il a porté ça.
Bon, vers 20h, il est arrivé, grand seigneur. Hein, la
normal,
classe.
Normal,
la classe
au chocolat.
La classe Simone Rovera, chocolat.
Ah, bon.
Correct.
Tu vois?
Toi, déjà, à la base, t'aimes pas trop.
Ah bah, à la base, ouais, non, mais je me suis toujours trouvé que c'était,
sec, un peu.
Bah, non, pas sec.
Un peu tout, et comme
un peu tout chrétien, quoi.
Béton, comme ça.
Et tout, ouais, voilà.
Et ça, c'est les pas bons.
Allez, à tout de suite dans la fleur avec les drôles de l'âme. On revient.
RMC Football Show, l'After Foot.